Radio Okapi. À la présentation du journal, Noëlla Luzito. Okapi. Épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en RDC. Désormais, on parle de 42 cas de fièvre hémorragique, dont 6 cas confirmés d'Ebola. Ce sont les chiffres actualisés annoncés aujourd'hui par le ministre de la Santé. Pour ce qui est de la lutte contre Ebola, le système des Nations Unies a mis la main à la poche. Près de 1 500 000 dollars sont disponibles sous la gestion de OCHA. Vous suivrez le porte-parole de la MONUSCO dans un instant. Ouverture d'une information judiciaire sur les affaires d'assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana contre le policier congolais fugitif Paul Mouilamboué par la justice sénégalaise. C'est sur base des plaintes introduites par les familles des victimes et la FIDH, partie civile au procès. Paul Nsapo, secrétaire exécutif de la FIDH, nous le dira dans ce journal. Le collectif des avocats des insurgés de l'ex-mouvement insurrectionnel Emelia en Équateur s'insurge contre la non-libération de leurs clients par l'auditeur supérieur militaire de l'Équateur, accusé de ne pas appliquer pour eux la loi d'amnistie. Ce dernier rétorque qu'il attend lui aussi la décision du ministre de la Justice qui leur sera communiquée par voie du journal officiel. Bonsoir à tous. Épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi que les chiffres actualisés font état de 42 cas de fièvre hémorragique, dont 6 cas confirmés d'Ebola, 13 cas probables et 23 cas suspects. Félix Kabang Numbi affirme que le nombre de décès est toujours de 13 morts, dont 5 agents de santé. 11 personnes sont placées en isolement. 6 nouveaux prélèvements ont été effectués en dehors des 8 déjà analysés. Par ailleurs, 168 contacts sont identifiés et suivis. Et pour épauler la RDC contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la communauté internationale répond à l'appel de fonds lancé en début de semaine par le gouvernement congolais pour lutter contre la maladie. Des fonds sont ainsi rendus disponibles par le système des Nations Unies, comme l'a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la MONUSCO au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Selon Carlos Araújo, près de 1 500 000 dollars sont disponibles et devront être gérés par OCHA.
Au niveau du système des Nations Unies, 1,5 million aussi va venir de ce qu'on appelle des pooled funds. C'est un mécanisme de financement où les bailleurs mettent l'argent pour répondre aux besoins humanitaires en RDC. Et ça, c'est géré par l'OCHA. Donc ça, c'est déjà disponible. 1,5 million. Un autre 1,5 million est en train d'être demandé. Ça va venir du CERF. Rapid Response. Donc CERF, c'est un mécanisme de financement basé à New York qui est géré par le PNUD et qui répond aux besoins humanitaires dans tout le monde. Donc on a de bons espoirs qu'on va avoir aussi 1,5 million de ce côté-là. L'UNICEF a déjà disponibilisé 200 000 $. C'est déjà prêt. Le PNUD a fait un appel pour 200 000 $. Donc l'appel est en cours. La Banque mondiale a promis d'aider mais n'a pas encore donné les chiffres.
Les propos du porte-parole de la MONUSCO, Carlos Araújo, ont été recueillis par Jacques-Yves Molima. De son côté, le syndicat national des médecins explique sa manière à lui de s'impliquer dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Dans une déclaration faite ce mercredi à Kinshasa, le bureau exécutif national du SINAMED rassure la population congolaise et rappelle que les médecins congolais disposent depuis 1976 de l'expertise nécessaire pour combattre efficacement ce fléau. Le SINAMED a par ailleurs invité les médecins au respect de leur serment d'Hippocrate et rappeler au gouvernement congolais qu'il est de son devoir de motiver le personnel afin de lui permettre de mieux protéger la santé des populations. Jocelyne Moussaoupondé.
Quand on déclare une épidémie, il y a déjà l'angoisse, l'inquiétude, la peur qui gagne les personnels soignants. Parce qu'ils connaissent très bien l'épidémie. C'est pour cette raison qu'il est de notre devoir de rappeler à tous les médecins leur devoir envers le malade. De deux, de rassurer la population de notre pays que nous avons des experts dans les domaines de la lutte contre Ebola. Et d'histoire, nous rappelons que chez nous, l'épidémie est souvent circonscrite dans les où il s'est déclaré. Ça n'a jamais gagné d'autres territoires ni d'autres provinces. Ensuite, demander au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions pour rassurer le personnel soignant qu'il va amener du matériel pour qu'ils prennent correctement nos populations en charge. Mais nous rappelons aussi au gouvernement que le médecin n'a pas que de devoirs. C'est une occasion pour montrer à l'opinion que les médecins sont à leur poste, sacrifient leur vie mais la prise en charge par le gouvernement n'est pas aussi conséquente.
C'était plutôt le secrétaire général du CINAMED au micro de Jocelyne Moussaoupondé. Plus de 150 cas de choléra, dont un décès, ont été enregistrés depuis le début de ce mois dans la zone de santé d'Ouvira au sud Kivu. Chiffre communiqué ce matin par le superviseur de la zone de santé en charge des maladies, 9 jours après la déclaration officielle de l'épidémie de choléra par l'administrateur du territoire d'Ouvira. Pour sa part, l'administrateur du territoire appelle ses administrés à observer des règles d'hygiène et de consommer de l'eau potable pour prévenir cette maladie. Gaius Chabilepa de la radio, le messager du peuple d'Ouvira.
Deux fois déjà, l'épidémie de choléra est déclarée officiellement à Ouvira depuis le début de cette année. La première déclaration est intervenue au mois de mars dernier. Le superviseur de la zone de santé d'Ouvira parlait de plus de 540 cas de choléra et 6 décès enregistrés pendant cette période au centre de traitement de choléra d'Ouvira. Il y a plus d'une semaine, l'administrateur du territoire d'Ouvira a déclaré une seconde fois l'épidémie de choléra dans cette zone de santé. On enregistre déjà 153 cas de choléra et 1 décès depuis le début de ce mois. Les quartiers les plus touchés par cette maladie sont ceux situés le long des rivières et du lac Tanganyika, dit le superviseur de la zone de santé d'Ouvira. Selon Bondengwisi, la réapparition de cette maladie se justifie par la consommation de l'eau des rivières et du lac non désinfectée par la population. Et ceci suite aux coupures de l'eau potable de la régie des eaux, affirme la source. À cela, il faut ajouter le non-respect des règles d'hygiène par la population. Ouvira, Gayus Chabilepa, Radio, le messager du peuple pour Radio Okapi.
Santé encore. Et toujours dans l'est du pays, les victimes de violences sexuelles du territoire de Walikale, province de Nord Kivu, ne bénéficient plus d'aucune prise en charge depuis quelques mois maintenant. C'est suite à la fin des projets de certaines ONG humanitaires qui intervenaient dans ce domaine. Pendant ce temps, la situation reste très préoccupante sur le terrain, selon l'ONG locale GRAS, groupe d'appui et conseil aux réalisations pour un développement endogène. GRAS tire ainsi la sonnette d'alarme. Sifamaguru.
Parmi les victimes des violences sexuelles à Walikale, 50% sont des mineurs, 40% des femmes déplacées et 10% constituées de la population locale, indiquent les responsables des GRAS. Et d'ajouter que la majorité des cas de viol enregistrés depuis le début de cette année ne sont pas pris en charge. Parmi ces cas, 2 femmes gravement malades. Ces victimes nécessitent une évacuation urgente dans un hôpital approprié. L'une d'elles témoigne.
Mon problème, ce sont les soins médicaux. J'étais opérée ici à l'hôpital général à 2 reprises, mais jusque-là, il n'y a pas de changement pour ces fistules. J'ai fait aussi la malaria à tout moment. Tout le temps, je suis à l'hôpital et il faut payer. Tous les enfants sont malades et leur état se détériore chaque jour. Et c'est ce qui me fait des soucis. Mon seul cri, c'est qu'on m'amène pour être soignée chez Mukwege.
Signalons que toutes les 3 ONG qui assuraient la prise en charge médicale, socio-économique et juridique des victimes de viol à Walikale ont toutes fermé. C'est notamment Île Africa, IMC et Association des barreaux américains. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
La justice sénégalaise ouvre une information judiciaire sur les affaires d'assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana contre Paul Mouilamboué. Elle a approuvé depuis hier la confirmation des plaintes introduites par les familles des victimes et la FIDH, partie civile au procès. L'instruction judiciaire est ainsi déclenchée. Selon le secrétaire exécutif de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, le policier congolais fugitif qui avait été condamné en RDC par contumace à la peine capitale fait déjà ses dépositions devant les juges sénégalais en attendant la fixation du procès. Paul Sapo, secrétaire exécutif de la FIDH, est joint depuis Dakar par Jeff Ngoy.
Les familles des victimes, les organisations de défense des droits de l'homme ont trouvé une opportunité de saisir la justice sénégalaise sur base de sa loi de compétences extraterritoriales, de la loi de compétences universelles. Sur base de la plainte des parties civiles, Paul Mouilamboué est considéré comme une pièce maîtresse qui a assisté, d'après son témoignage, à l'assassinat de Tchebeya et de Bazana dans les locaux de la police nationale dans le bureau qui nous venait de Tchouni. Et il ne faut pas minimiser l'affaire Paul Mouilamboué puisque c'était lui qui avait la charge de la sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire l'instruction, le siège national de la police et toutes les personnes qui lui circulaient. Nous attendons de ce procès que justice soit faite aux familles victimes, que la vérité éclate et que les responsabilités soient établies.
Restons dans ce chapitre de la justice pour parler du collectif des avocats des insurgés ayant appartenu au mouvement insurrectionnel du MLI en Équateur. Ce collectif demande à l'auditeur supérieur militaire de l'Équateur d'appliquer la loi d'amnistie en faveur de leurs clients. Alors que les anciens rebelles du M23 ont déjà bénéficié de cette amnistie promulguée par le chef de l'État, ces avocats ne comprennent pas pourquoi, plus de 6 mois après, les 21 insurgés et les condamnés continuent à être détenus à la prison centrale de Mbandaka. Et pourtant, soutient Maître Innocent Lossali, un des avocats de ces collectifs, ils ont déjà signé depuis le mois de mars dernier l'acte d'engagement individuel conformément à cette loi d'amnistie. Maître Innocent Lossali qualifie d'inadmissible cette attitude de l'auditeur supérieur militaire de l'Équateur. Il est avec Dominique Wolombi Mongampangé.
Ces détenus sont encore en prison aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Depuis le mois de février, le chef de l'État avait promulgué la loi portant amnistie. Et cette loi devait être appliquée par tous les bénéficiaires, y compris les insurgés appelés communément Enyel. Parmi les conditions qu'avait contenu cette loi, chacun des bénéficiaires devait signer un acte d'engagement individuel. Cette formalité légale avait été déjà accomplie depuis le 17 mars de l'année en cours. D'ailleurs, les documents portent la signature de l'autorité militaire supérieure, mais nous ne savons pas pourquoi. Au regard de cette loi, ces gens doivent encore continuer à demeurer en prison alors qu'ils sont bénéficiaires légaux de cette loi. Et pourtant, ceux qui ont commis les faits plus graves que nos clients, à l'instar des éléments et autres partisans du M23, sont déjà libérés et se retrouvent en liberté. Il n'y a pas de sorte de dépôt et de mesures, donc nos clients aussi des Enyelais doivent être libérés au même titre que tout ce monde-là.
Pour l'auditeur supérieur militaire de l'Équateur, la libération de ces insurgés et les condamnés ne dépend pas directement de lui. Il dit attendre la décision du ministre de la Justice qui leur sera communiquée par la voix du journal officiel avant l'élargissement de ces insurgés condamnés du MLIA. S'il les libérait directement, dit-il, il risquerait d'être poursuivi pour avoir favorisé l'évasion de ces détenus. Avant de boucler ce journal, sachez que le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, effectue depuis ce mercredi une visite officielle à RDC. Sa visite rentre dans le cadre de sa première tournée qu'il a débutée dans la région des Grands Lacs depuis la semaine dernière et qui va jusqu'au 15 septembre. À Kinshasa, Saïd Djinit rencontrera les responsables de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies, certains membres du gouvernement, du corps diplomatique, de la CENI et de la société civile. Une rencontre est également prévue avec le président de la République, Joseph Kabila. Saïd Djinit a remplacé à ce poste Mme Mary Robinson, appelée à d'autres fonctions. C'est par cette information des Nations Unies que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.